bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Vous écoutez l'émission Un coin quelque part.
Quelque part dans un coin se cache un bonheur pour moi.
Bonjour. Bon, alors en fait, je suis pas du tout dans un schéma habituel, donc je ne sais pas comment ça va être, mais ça va être très bien sûrement. Pourquoi pas un schéma habituel? Parce que d'une part, on est en direct, et ça c'est quand même rare que je fasse ça avec un coin quelque part, parce que c'est autre chose quoi. Mais en même temps, c'est la vraie radio. Et par ailleurs, parce qu'en plus du coup aujourd'hui, il y a Gilles qui a la technique, et que du coup ça me permet d'être complètement avec mon invité. Salut Gilles, et merci à toi d'être venu. Et donc je suis avec Paul Allozy. Salut Paul.
Salut.
Et Paul, on l'a déjà entendu ici plusieurs fois dans plusieurs émissions d'un coin quelque part pour des tas de raisons diverses et variées, mais un peu toujours les mêmes quand même.
C'est vrai, un peu toujours les mêmes.
Un peu toujours les mêmes. Ouais. Mais là aujourd'hui, c'est quand même un événement qui est plutôt bien. Malgré la thématique qui elle est vraiment désastreuse, mais en tout cas le sujet qui est celui d'aujourd'hui pour un coin quelque part, c'est le fait que 124 organisations arrivent à se mettre d'accord puis à signer un texte dans lequel il est fait état de 10 années. Donc c'est un triste anniversaire, 10 années de non accueil des personnes exilées en France. Ouais. Alors, juste avant qu'on rentre dans le détail et le fond, comment est-ce que ça s'est passé, l'organisation pour arriver à écrire un texte, qui est quand même très compliqué? Bon, j'imagine que c'est pas avec les 124 que ça a été signé, ça a été écrit, mais comment vous avez fait ça?
Alors oui, pour donner un peu la genèse d'une lettre ouverte comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on a un espace qui s'appelle l'Interorga, nous, à Paris, et donc c'est une réunion qui a lieu tous les mois, qui est un espace informel, dans lequel se réunissent des assos, des collectifs, des citoyens, qui interviennent de près ou de loin sur les campements d'exilés à Paris ou dans les squats. Certains, comme moi, bossent dans des ONG, d'autres bossent pour des opérateurs qui travaillent pour l'État, d'autres dans des groupes beaucoup plus militants, enfin voilà. Et on réunit tout ce beau monde une fois par mois pour se filer de l'info, pour bosser ensemble correctement, intervenir, s'assurer qu'il y ait des avocats, des médecins, des assistants sociaux, des couvertures, des tentes, de la nourriture auprès des personnes qui sont dehors. Et on fait aussi du plaidoyer. Et donc là, on avait cette idée, on se disait, mais cet interorga, il existe globalement depuis une dizaine d'années, depuis 2015. Et donc là, il y a un triste anniversaire. Voilà, ça fait 10 ans que on a besoin de se réunir, qu'on a besoin d'intervenir. On aimerait bien arrêter de le faire. Notre but, c'est plutôt d'être au chômage normalement. Et donc, on s'est mis à plusieurs avec le Comed, des gens du Solipam, du Barreau de Paris, du Topia de Paris d'Exil et moi de Médecins du Monde. On a rédigé ce texte.
C'est ça, un petit groupe.
Voilà, on fait à quelques mains. Et ensuite, on envoie ça le plus largement possible. Et puis, on voit qui ça intéresse et qui signe quoi.
Ok. Et donc là, effectivement, alors bon, bien sûr, dans la lettre, il y a la référence que tout le monde fait dorénavant depuis 2017 à la petite phrase. Voilà, c'est un classique maintenant, à la petite phrase d'Emmanuel Macron qui disait, je le cite, la première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. Bon, évidemment, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça, c'était une espèce de phrase. Même pas très belle, mais bref, en tout cas, une espèce d'une chose qui était une promesse qui... Il y en avait un qui avait dit les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, non? Voilà, c'est peut-être un pote à lui. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans? Ben, la même chose qu'un petit peu les années d'avant. Donc, c'est vrai que ce qui change les 10 années, en fait, c'est 10 années parce qu'il y a une organisation, effectivement, puis des chiffres. C'est-à-dire que moi, ce que je suis pas allé à toutes les réunions, mais à celles où je suis allé, j'ai trouvé quand même assez remarquable le fait que, du coup, ça permet aussi des échanges. On en avait parlé au moment de la question de ce qui s'est passé juste avant et juste après les Jeux Olympiques. Une espèce de nettoyage social qui avait lieu là, ça permet quand même d'échanger des données, ça permet d'échanger des vraies informations concrètes sur à tel endroit, il se passe ça, il se passe ci, et ça quand même c'est vraiment important, c'est à mon avis sans doute aussi important que les plaidoyers, non?
C'est ça, en fait c'est important de se réunir autour de faits. J'ai beaucoup aimé, il y a quelques jours, j'ai entendu un démographe passer à France Inter, grosse radio nationale le matin, et pour répondre à cette histoire de submersion Premier ministre. Et lui, il disait, écoutez, je vais pas vous parler de réalité, parce que tout le monde a sa réalité. Par contre, il faut qu'on parle de faits. Et donc, nous, on a un fait à Paris qui est que depuis 2015, il y a des gens qui arrivent souvent de l'autre bout de la planète, et qui, à défaut d'être accueillis correctement, se retrouvent dans la rue et forment des campements. Alors on en pense ce qu'on veut. Nous, pour beaucoup, ça nous indigne et on trouve ça violent et on voit la santé de ces personnes s'est dégradée. Il y a d'autres gens que ça inquiète, voire qui ont un sentiment de rejet par rapport à ça. Ce qui se passe, c'est que oui, il y a 10 ans, le nombre de demandes d'asile a un petit peu augmenté et surtout, on a décidé de ne plus accueillir les gens qui arrivaient. Dans les années 80, quand les gens fuyaient l'URSS, on leur ouvrait grand les bras et on les accueillait. Il y a encore quelques années, quand les Ukrainiens sont arrivés, en un an, on en a pris 200 000 en charge sans problème. Nous, chaque année, depuis 2015, il y a entre 120 000 et 130 000 personnes qui arrivent dans notre pays de 70 millions d'habitants et qui demandent qu'on étudie leurs demandes. Ils ne seront pas tous pris en charge, ils n'auront pas du tout tous des papiers. Ils demandent qu'on étudie leurs demandes. Et beaucoup passent par Paris. Et donc, quand ils arrivent à Paris, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un passage obligatoire par la case sans-abrisme. Mmh. Et donc, je le disais, le sans-abrisme, c'est avant tout terrible pour les personnes qui se retrouvent plongées dans cette situation. Et puis, en fait, c'est indigne de notre ville. Et c'est vrai, il y a aussi des riverains qui n'aiment pas ça, de voir leur quartier avec des campements, tout ça. Et en fait, on pourrait faire totalement autrement. Mais depuis 10 ans, il y a un choix qui est motivé, et c'est ce qu'on met dans la lettre, par le mythe de l'appel d'air. On se dit que si les gens avaient comme info que quand ils arrivent à Paris, il y avait un toit au-dessus de leur tête et des lits picots, on pense à tort que toute la misère du monde viendrait à Paris. Alors, c'est pas comme ça que ça marche. Même quand on accueille les gens dignement, ils viennent pas en courant à Paris. Moi, j'ai visité plusieurs fois, sans en avoir le droit, mais les centres d'accueil pour les Ukrainiens, ils étaient souvent à 80% vides et les Ukrainiens ne partaient pas en courant de Mariupol parce qu'ils avaient entendu qu'il y avait des lits picots dans un gymnase à Paris. Ça marche pas comme ça, l'exil. Et donc, c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans ce texte. C'est que là, ça fait 10 ans qu'on fait du mal à beaucoup de monde et qu'on est indigne de ce que pourrait faire notre pays en termes d'accueil à cause d'un mythe, en fait, de quelque chose qui n'est pas justifié. Et donc, on aimerait bien mettre un terme à ce triste anniversaire et que sa durée d'existence s'arrête là parce que 10 ans dans l'accueil, c'est vraiment 10 ans de trop.
Et donc, du coup, ce que, alors, dans la lettre, on lira des extraits après, mais dans la lettre, il est fait effectivement référence au fait que tout ceci alimente des idéologies d'extrême droite, ça alimente effectivement des impressions de rejet, des sensations de peur, etc. Et ça, c'est mobilisé également par les politiques. C'est-à-dire que même dans la phrase que je citais tout à l'heure d'Emmanuel Macron, comment dire? C'est-à-dire que c'est comme si c'était quelque chose qui arrivait, la première bataille, c'est vrai, ça c'est donne vrai. Une impression d'une guerre, de quelque chose qui nous échappe et on comprend pas d'où ça vient, mais on va faire attention. Et donc ça, c'est quand même, comment est-ce qu'on pourrait pousser les politiques à, est-ce que cette lettre va le faire? Je ne sais pas, c'est à suivre, mais comment est-ce qu'on pourrait pousser pour de vrai les politiques, notamment à gauche, un peu plus que ce qu'ils ne font actuellement, à prendre vraiment la dimension de ces drames qui sont soulevés là.
Bah, c'est vrai que ce qu'on a fait avec cette lettre, déjà, c'est donc très symboliquement de s'adresser au président de la République et de la faire publier dans Le Monde, parce que c'est quand même le journal que lisent la plupart des décideurs.
Mais oui, t'as vu que dans Le Monde, il commence la lettre avec « Il est urgent de résoudre ». Et en fait, la lettre, elle commençait par « Monsieur le Président, il est urgent de résoudre ». Alors c'est quoi? Ils n'ont pas mis l'adresse au président.
Ouais, mais je crois qu'il l'explique dans l'introduction. Non, faudrait que je regarde à nouveau l'article. Mais
ce que je vois au début, il commence collectif. 10 ans de non-accueil des personnes exilées en France. Le constat d'un collectif de plus de 80 organisations humanitaires et syndicales. Depuis 10 ans, un régime de non-accueil sévit en France envers les personnes exilées. Constate un collectif de plus de 80. Dans une tribune au Monde, une gestion à court terme est privilégiée sans offrir de réponse aux besoins des nouveaux arrivants de plus en plus contraints au sans-abri. Et hop, démarre la lettre avec.
Il faut qu'on leur redise. En effet.
C'était une lettre ouverte. Bref, là, je t'ai coupé, pardon.
C'est une lettre ouverte, c'est vraiment adressé à Emmanuel Macron parce qu'il a fait ses promesses. Alors, il a dit tout un tas d'autres choses sur la migration. Il a une phrase aussi où un jour il s'est adressé à plusieurs préfets de une réunion des préfets de France en leur disant on a tout essayé pendant des années, les laisser dehors, faire des files d'attente interminables. Ça ne marche pas, ça ne les décourage pas. Donc, en plus, Macron a tout à fait conscience de tout ça.
C'est affiché comme
ça. Voilà, de la technique qui est mise en place pour dégoûter les gens et pour les faire partir. Donc là, quand on fait une lettre comme ça, l'intérêt, c'est de dire on se retrouve, en fait, on fait corps. Parce que là, la rentrée internationale, au niveau des montées de l'extrême droite, du fascisme, tout le monde est un peu inquiet, peut-être déprimé. Et donc, on croit assez en la force. Je me permets de dire nous, en tout cas, ceux avec qui je l'ai écrit et à qui on a proposé de signer. On croit vachement en la force du collectif. Et que oui, on peut avoir des gens très riches qui arrivent au pouvoir et qui ont des discours xénophobes. Ça n'empêche pas que dans la société civile, c'est 10 ans de montée de ces idées-là. Mais moi, ça fait 10 ans, en fait, que je suis sur ce terrain ici et que je vois des gens incroyables, quoi, que je vois des assos qui se forment, des collectifs qui se montent, des actions d'occupation, des gens dans le monde entier qui se parlent au-dessus des frontières pour voir comment mieux accueillir, gérer ce problème. Donc, la société civile, même si elle est moins mise en avant dans un discours dominant, on va dire, je trouve qu'elle se défend vachement et qu'elle propose vachement de choses. Et après, tu me demandais comment toucher les politiques. Je pense qu'on a vraiment besoin, et pour les politiques et pour le grand public, c'est triste à dire, mais d'humaniser les personnes exilées. Parce qu'on nous parle tellement, comme tu dis, de la bataille, après on nous parle de submersion, après on nous parle de vagues. En fait, tout est fait pour oublier qu'il y a des personnes derrière. Et que moi, un des trucs qui me touche le plus, c'est que quand je suis devant mon camion avec nos médecins et qu'on accueille les gens, je rencontre plein de gars de mon âge, quoi. Enfin, je rencontre plein de gars qui ont entre 20 et 30 ans, qui se retrouvent à l'autre bout du monde, qui ont perdu la moitié de leur famille, d'un qui veut devenir médecin, et l'autre charpentier, et l'autre journaliste, et l'autre qui a qu'une envie, c'est rentrer chez lui dès que la guerre s'arrêtera. Et en fait, quand on rencontre les gens, toutes ces discours là de vagues et d'invasion et tout, on se rend bien compte que c'est des conneries et qu'il y a juste un truc d'humain à humain là qu'on se doit d'y répondre. Et en fait, on est plein à se dire que tant qu'il y aura, on parle de réquisition dans le texte, que tant qu'il y aura des bâtiments vides, eh ben il y a des gens et qu'il y aura des gens dehors, il y a un calcul assez simple quoi, on leur met un toit au-dessus de la tête.
On leur met un toit au-dessus de la tête, absolument. C'est ça. Et alors parmi les termes, il y a celui de crise migratoire.
Ouais.
Qui marche depuis plusieurs décennies lui quand même, hein, les crises migratoires. Ouais. Et puis avec cette partie très anxiogène et angoissante pour plein de monde sur la question écologique, où les gens commencent à comprendre que il y a les guerres, oui, qui font fuir les gens, il y a les questions économiques, mais il y a aussi des questions écologiques, climatologiques et autres. Et ça, du coup, ça renforce le côté, ça permet d'avoir ce discours-là. Mais voilà, oui, ma question, elle était peut-être idiote, mais je veux dire, je me demande comment est-ce que, là, je comprends, c'est un coup de gueule, et puis c'est bien, et puis c'est, en effet, est-ce qu'on va fêter 20 ans après avec cette faire là, ou est-ce que vous allez faire quelque chose là? Très bien. Moi, comment est-ce qu'on pourrait mettre d'autres termes dans la bouche de des hommes et des femmes politiques pour que, enfin, comme tu le décris très bien, il s'agisse bien d'êtres humains, de personnes, d'hommes, de femmes, d'enfants, de jeunes, de moins jeunes, etc., qui ils sont pas venus là pour leur plaisir ou pour prendre je ne sais quoi qui serait.
Non, la bataille des mots, hein, elle est hyper importante en effet. Le logiciel de crise, il permet justement d'être tout le temps dans la crise permanente et de se dire qu'on est dans l'urgence. Mais on peut pas parler de crise migratoire à Paris. Ça fait déjà très longtemps qu'il y a ce problème-là, et ce problème des campements, ça fait 10 ans. Et donc ça fait 10 ans qu'on attend qu'il y ait assez de gens dehors et que ça devienne assez catastrophique pour faire venir des bus et pour emmener les gens ailleurs. On en loge une partie, puis il y en a d'autres, en fait, on les remet à la rue dans d'autres villes, puis ils reviennent à Paris. Et donc on se dit, vu que c'est la crise, c'est normal de gérer comme ça, de mal gérer, parce que c'est l'urgence. Alors 10 ans, c'est pas une crise. 10 ans, ça prouve juste que ce logiciel de crise, c'est une manière de justifier les choses et de continuer à mal travailler, hein, parce que quand même les gens qui sont en gestion de ça, je vais sûrement encore beaucoup l'agacer s'il écoute l'émission, mais monsieur le préfet de région, monsieur Marc Guillaume, c'est pas du tout du bon travail ce qui se passe là. On a des campements à Paris où les standards humanitaires sont moins élevés que ceux au Sahel ou à l'époque en Palestine. Enfin, je veux dire, normalement quand il y a un camp de réfugiés quelque part, il y a un nombre de latrines par personne, de douches par personne, il y a un minimum pour que, et encore c'est des conditions de vie qui restent spartiates. Et là à Paris, on n'a même pas ça, quoi. Je me souviens d'un collègue de la Croix-Rouge, quand on avait ces énormes épidémies de gale sur les campements, qui avait contacté des collègues de la Croix-Rouge en Grèce en leur disant, bon, vous faites quoi vous quand il y a la gale? Et alors les collègues de la Croix-Rouge en Grèce, quand il y a la gale, c'est simple, on prend les draps du lit, on met les draps du lit à la machine, on désinfecte la pièce, et puis la personne prend une douche, on lui donne un médoc, c'est bon. Et nous, t'es là, ah mais nous, il y a pas de lit, il y a pas de pièce, il y a pas de draps, il y a pas de douche. En fait, même dans les hotspots en Grèce, qui sont déjà des lieux terribles pour accueillir les personnes, c'est des fois sur certains points moins pire qu'à Paris, quoi. Paris, la ville lumière, Paris, nous sommes prêts à accueillir le monde des JO de Paris 2024. Donc il y a vraiment quelque chose à changer là-dessus. Et je parlais tout à l'heure de la submersion là, de notre fameux Premier ministre.
Alors oui, voilà, nouveau terme, la submersion.
La submersion, écoute, en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait une réponse qui avait été très, très correcte de la part de Boris Vallaud à l'Assemblée, quand il lui a dit submersion, est-ce que vous parlez de telle et telle personne? Et il a cité des noms de personnes et de travailleurs essentiels, de nounous qui gardent les enfants des politiques, de gens qui bossent comme livreurs, gens qui bossent dans le bâtiment. Enfin, j'ai un de nos patients, il me racontait ses semaines, et j'avais calculé, il avait une base de travail de 72 heures, quoi, en bossant et dans un supermarché et dans un bâtiment à côté. Enfin, c'est dingue après d'utiliser ces termes-là, quoi.
Submersion, en plus, ça remet encore le discours comme étant, nous serions les victimes. Tu sais, nous serions, nous, les victimes de cette arrivée, etc. Parce que submersion, ça fait penser à un submersible. Ça fait penser à, voilà, on serait noyé par, on serait, d'accord, on serait sous l'eau, on pourrait plus, on pourrait plus faire quoi que ce soit en politique. Alors que, ben non, c'est pas nous les victimes, là, en fait.
Non, c'est ça. Déjà, on est pas du tout victime. Moi, depuis, je le raconte souvent, mais je suis un petit gars des Vosges à la base. Donc, tu vois, je viens d'un petit village et j'ai des souvenirs d'enfance de quand mes parents regardaient la télé, de choses qui m'avaient fait peur à la télé. Ils avaient montré des images de migrants qui couraient vers les bus à Calais. Mmh. Et moi, à 7 ans, dans mes Vosges, ou même quasiment dans mon village, personne n'est noir, par exemple. Ça fait peur de voir ces images de TF1. Ah, les migrants partout, etc. Et puis, des années plus tard, je grandis et puis j'arrive à Paris et je me retrouve à militer et à bosser avec des personnes exilées, à être en solidarité avec elle. Et en fait, c'est une des plus belles choses qui m'est arrivée de ma vie, quoi, la migration. Enfin, c'est incroyable. J'ai rencontré, je me suis fait des amitiés et des rencontres qui m'ont ouvert à des choses folles. J'ai découvert des existences de pays et de langues dont je connaissais même pas l'existence avant. Ça fait 2 ans que j'apprends à parler le Dari, une langue d'Afghanistan. Ça va sûrement m'aider à découvrir une autre partie de la planète si un jour je quitte Paris pour ça. Enfin, c'est, en fait, la migration, c'est une richesse qui est énorme, qui est dingue. Et on a clairement les moyens en France de faire notre part du travail et de l'accueil au niveau mondial.
Et alors, est-ce que tu pourrais, pour les auditeuristes, peut-être préciser de ton interprétation de comment se fait-il que autant de monde arrive à Paris plutôt que de rester dans d'autres grandes villes en France?
Alors, en fait, Paris, c'est évidemment, quand on est sur le chemin de la migration, il y a plein d'étapes. Et donc, Paris étant une très grande ville dans laquelle il y a des réseaux de solidarité pour les personnes, ils entendent parler de Paris. Alors, il y a plein d'autres villes qui accueillent beaucoup de monde en France. Après, Paris, c'est souvent une étape avant même d'arriver dans ces autres villes-là, parce que les fameux bus qui viennent tout le temps emmener les gens des campements, les redispatchent après sur plein de villes en permanence. Donc les gens ont bien en tête Paris. Et puis, je veux dire, Paris, c'est un symbole connu mondialement, évidemment. Les exilés, dès qu'ils arrivent, ils font la même chose que vous. Quand vous venez visiter Paris, eux aussi, ils vont devant la Tour Eiffel, et même s'ils dorment à Porte de la Chapelle le soir sous une tente, et qu'ils se font réveiller à 5h du matin par la police, ils vont faire leur photo devant la Tour Eiffel, et ils envoient cette photo fièrement à leurs parents pour leur dire « Regarde, tout va bien, je vais très bien », pour pas inquiéter leurs parents. Donc en plus, les migrations se construisent aussi sur des mythes. Moi, je me souviens, avant de bosser là-dedans à plein temps, quand je faisais du bénévolat, j'avais accueilli un mec du Burkina Faso après une manif, c'était la marche de solidarité, et des camarades me disent « Voilà, il a besoin d'être logé une nuit avant d'aller à Toulouse, est-ce que tu peux le prendre chez toi ?» Je dis « Très bien, il vient dans mon petit appart d'étudiant, et je travaillais pour une famille dans le 6e, et mon appart, du coup, avait une vue, on voyait la Tour Eiffel au fond. Et donc, le mec est transit froid, il vient d'arriver à Paris, il va pas bien, quoi, donc on se fait à manger, et en fait, il appelle sa famille parce qu'il se connecte à du wifi. Et là, à travers la fenêtre, on voit la Tour Eiffel, et donc je le vois se mettre en FaceTime et dire à sa famille « Regarde maman, tout va bien, ici tout va bien pour moi, je suis une sommité, ne t'inquiète pas pour moi, j'ai un appartement, regarde, on voit la Tour Eiffel. » Et après, j'étais là « Mais attends, pourquoi tu lui dis ça ?» Il me disait « Mais en fait, parce que je veux juste pas inquiéter ma famille, je vais toujours lui dire que tout va bien, quoi. » Et en fait, il faut comprendre que voilà, il n'y a pas de submersion, il y a juste plein de destins individuels qui permettent de faire la richesse qu'on est, en fait, d'être une société, un collectif qui est traversé par plein d'histoires. Et c'est ça que nous apporte la migration. Et ce fameux démographe dont je te parlais tout à l'heure disait bien, depuis des dizaines d'années, on est au même taux de personnes étrangères qui intègrent la société française. C'est à peu près le même nombre que la demande d'asile, c'est 120 000 personnes par an, sachant qu'il y en a qui repartent chaque année, hein, qui quittent aussi la France chaque année, et qu'on n'a pas du tout un taux qui fait qu'on est envahi, pas du tout.
Bon, je lis un peu le début de la lettre, d'accord ?
Comme ça, Manu l'entendra.
Voilà, 10 ans de non-accueil des personnes exilées à Paris et en France. Monsieur le Président, il est urgent de résoudre, disons, d'une situation intenable, celle du non-accueil et de la violence institutionnelle envers les personnes exilées. En 2015, le nombre de personnes venues demander l'asile en Europe augmente. Cette situation, rendue visible à Paris par l'installation de centaines, puis de milliers de personnes dans des campements de rue, est qualifiée de « crise migratoire », une appellation que nous rejetons, constatant quotidiennement sur le terrain que c'est le système d'accueil qui est en crise. Pour les familles, enfants, femmes et hommes qui survivent dans ces lieux de vie informels, les conditions de vie sont délétères pour leur santé physique et psychique, et parfois fatales. Bien que très visible à Paris, cette situation a des répercussions nationales. Le cycle infernal de démantèlement de ces campements et d'opérations de mise à l'abri s'accompagne de la délocalisation en bus de ces personnes vers d'autres régions, la plupart du temps sans concertation avec elles. Avec donc les régions. Elles subissent alors une perte de repères, de ressources et d'opportunités dans un contexte déjà précaire d'hypermobilité, Par ailleurs, Paris est souvent un lieu d'étape avant le littoral des Hauts-de-France où les atteintes aux droits fondamentaux sont innombrables et mortifères. Donc là, Hauts-de-France, tu parles de... Enfin, on parle de...
Tout le monde dit Calais. Calais, mais voilà, ça s'étend bien au-delà de Calais. C'est beaucoup à Dunkerque. C'est maintenant très largement sur la côte parce que les passages se font en bateau. Ouais.
C'est ça. Donc là, dans ces deux premiers paragraphes, là, donc effectivement, tu as déjà dit des choses là, sur la question de la crise migratoire. L'autre chose là, qui est intéressante aussi, dans cette façon de formuler les choses, c'est que du coup, les opérations dites de mise à l'abri sont faites comme si on était très charitable, n'est-ce pas, de mettre à l'abri. Et en fait, c'est absolument pas une mise à l'abri, c'est en effet beaucoup de violence déjà. On sépare les groupes, les gens, enfin, parfois des gens viennent ensemble, en petits groupes, famille ou pas, mais en tout cas, ouais, et parfois ils se retrouvent exilés les uns par ici, les autres par là, dans des régions où des situations ne sont pas du tout les mêmes, et ils ne vont pas se revoir tout de suite. Et ça, c'est quand même une hypocrisie incroyable, non ? La mise à l'abri.
C'est très fort, parce qu'en plus, la mise à l'abri, ça n'a aucun statut juridique. Voilà, ça n'existe pas, en fait, vraiment légalement. Mais ils ont mis ce système-là en place, qui fait qu'ils se dispensent même d'arrêter d'évacuation. Donc les lieux, normalement, une fois qu'il y a une tente posée plus de 48 heures quelque part dans la rue, ça devient un domicile. Normalement, c'est protégé par la loi, et ça peut pas être enlevé sans qu'il y ait une procédure d'évacuation. Et donc, il y a même pas de procédure d'évacuation, parce qu'en fait, on dit aux gens, on vous a proposé quelque chose, donc on vous évacue pas. Et pendant de longues années, les gens ne pouvaient même pas, ceux qui voulaient rester sur place en disant, désolé, moi j'ai trop donné d'aller à l'autre bout de la France 2 semaines et de revenir, je reste là. Ne pouvait même pas rester sur place. Chaque mise à l'abri était doublée d'une évacuation. Ça, c'est un des trucs qu'on a gagné avec le revers de la médaille, le collectif qu'on avait formé autour du nettoyage social pendant les JO, donc le grand nettoyage qu'ils ont fait de la ville avant les Jeux. C'est qu'on a tellement mis la pression sur ces opérations-là qu'ils se sont mis à en faire où ils emmenaient que les personnes volontaires et à venir sans la police et à laisser ceux qui voulaient sur place rester sur place. Évidemment, c'est pas satisfaisant. Nous, on veut que personne ne reste sur place. On veut pas qu'il y ait de campement. On veut qu'il y ait personne dans la rue. Mais on a ce système-là qui est en place depuis de longues années.
Je sais plus qui est-ce qui avait mis ça en place d'ailleurs, parce que comme tu le dis, ça fait de longues années, mais il me semblait qu'il y avait quelque chose qui avait déclenché ça justement.
En tout cas, les premières grosses opérations documentées par les assos, elles datent de 2015, sous la ligne 2 du métro. Et au début, ça choquait les gens de se dire, mais sous la ligne 2 du métro, qu'est-ce qui se passe? Des milliers de personnes qu'on doit emmener comme ça. Et en fait, à nouveau, les gens arrivent où? À Paris, sous la ligne 2 du métro. 10 ans plus tard, c'est le serpent qui se mord la queue, on est retourné au même endroit. Et on parle aussi, là, dans ces deux paragraphes, des conséquences pour la santé physique, psychique et des conséquences parfois fatales. Moi, ce matin, j'ai dû annoncer à un de mes collègues qui bosse sur la mission que quelqu'un qui l'accompagnait, que lui-même avait pris en photo, j'ai dû lui annoncer son décès. Ça arrive malheureusement un peu souvent, mais donc un jeune homme somalien qui était sur les campements depuis des années et des années, qui était devenu tout maigre, il venait souvent nous demander des bandes pour les mains parce qu'il s'abîmait beaucoup les mains et donc il voulait les bander lui-même pour se protéger les mains. Et donc on a reçu les infos et j'ai dû encore annoncer à un collègue qui a 23 ans que oui, quelqu'un qui l'a suivi, dont il s'est occupé, est décédé là il y a quelques jours, a priori mort de froid dans sa tente. Et en fait, ça, malheureusement, c'est devenu quelque chose de récurrent. Je dis pas que ça arrive très souvent, mais on en parle dans cette campagne, là, autour des 10 ans. Le collectif Les Morts de la Rue parle de plus d'un millier de personnes dans Paris intramuros qui sont mortes de la rue en 10 ans. Un millier de personnes, c'est énorme et c'est devenu quelque chose avec lequel on doit composer, alors qu'on peut faire, quand on rentre du travail, le trajet jusque chez nous et passer devant des dizaines de milliers de logements vides. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'acceptera jamais et qu'on continuera à se battre pour que les gens atteignent ces logements.
La lettre continue ainsi. Cette situation de non-accueil, c'est aussi 10 ans de victoire idéologique de l'extrême droite, car elle est pensée structurellement pour éviter un supposé appel d'air. Tu l'évoquais tout à l'heure. Cette théorie infondée, largement infirmée depuis des années par les chercheurs et chercheuses qui travaillent sur ces questions, propose une lecture erronée des dynamiques de l'exil, consistant à croire que l'on fuirait les persécutions et la pauvreté, non pas en dernière mesure pour se sauver, mais plutôt pour venir profiter à Paris d'une place d'hébergement ou de minima sociaux. Les équipes gouvernementales successives ont ainsi appliqué une politique de non-accueil systématique et fait de la vie des primo-arrivants un enfer. Les primo-arrivants et arrivantes. Le passage par la case sans-abrisme est devenu à leurs yeux obligatoire pour supposément dissuader de venir ou de rester toutes celles et ceux qui viennent demander une protection de notre pays. Alors, le sans-abrisme, c'est vraiment un terme aussi qui a été quand même beaucoup analysé, beaucoup défendu, puis pas par des sociologues, des militants, etc. Parce qu'en fait, là aussi, quand on met une casquette comme ça sur les choses, les gens, les situations, ça permet aussi de dire à tous ceux qui ont quand même un logement, aussi petit soit-il, aussi mal composé soit-il, et le DAL serait là, il pourrait nous en parler beaucoup, ça permet aussi de les tenir à l'écart de, surtout tu bouges pas parce que toi t'as la chance, t'as un abri.
C'est ça. Non, c'est clair, et c'est dingue de voir que c'est ce qui a été choisi, et c'est un choix structurel. Je veux dire, quand on entend les politiques en permanence criminaliser les migrants et tout ça, ils vont nous parler d'insécurité, ils vont nous parler d'occupation illégale de l'espace public, mais c'est le choix que eux font, en fait, de laisser les gens dehors, quoi. C'est complètement dingue. Ils font le choix structurellement de dire, on sait que chaque année, il y a plusieurs milliers de personnes qui vont arriver à Paris. On pourrait les mettre autre part, mais on va les faire passer par la rue obligatoirement. Et ça, c'est quand même dingue, je veux dire. Alors, nous, c'est des raisons d'humanité et de dignité qui nous disent qu'il faut pas faire ça, mais j'ai même du mal à eux comprendre le choix stratégique de faire ça et d'en permanence avoir des espaces publics qui sont impropres à la vie des personnes, remplis de gens qui vont là se dégrader petit à petit. Ça me dépasse de me dire que c'est un choix qu'ils font.
C'est pour ça que je citais cette question de donner l'exemple, en fait.
Oui, c'est ça,
Attention, il pourrait arriver ça si. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est pour ça que l'extrême droite aussi peut monter en puissance. C'est parce que le discours, enfin, il me semble, c'est une hypothèse que j'émets. Il me semble que ce discours-là qui permet donc de mettre les pauvres les uns contre les autres, en fait, ça justifie des tas d'actions, de choses qu'on ne ferait pas. Évidemment, il faut les faire partir de là, de la rue. Et moi, je me terre dans mon petit chez moi que j'ai eu parce que. Je sais pas quoi. Parce que j'ai eu de la chance, parce que je suis français, parce que quoi ? Ouais. On ne sait pas.
Et puis il faut se dire que l'extrême droite va continuer à dire les frontières sont des passoires, les gens nous envahissent, etc. En fait, je suis allé, toute une mission et il y a beaucoup de gens qui maraudent à Briançon et j'ai fait des maraudes avec eux dans la montagne là-bas. Nos frontières sont déjà militarisées complètement. Il y a des militaires, la gendarmerie qui sont présents par centaines, qui refoulent les gens quand ils ont décidé de le faire, qui ont des moyens complètement dingues, parfois des drones, etc. Ouais, ouais. Des moyens des jumelles thermiques pour là. Et donc en fait, on a fait de nos frontières déjà des cimetières, que ce soit les frontières intérieures de la France, parce qu'il y a des gens dans les montagnes qui vont mourir, prendre des chemins hyper dangereux. Nos frontières extérieures, la Méditerranée, tout ça, là, c'est devenu des cimetières à ciel ouvert. Et en plus, on a beau faire ça. En fait, si les gens n'ont pas le choix, à Briançon, il y a des gens qui vont faire la traversée 15 fois. Et soit au bout d'un moment, ils vont mourir, soit à un moment, ils vont réussir à se faufiler en prenant le chemin le plus dangereux possible. Et en plus, la France est signataire de plein de traités sur l'accueil en disant que les gens ont le droit de venir normalement sans être entravés. Et que quand ils arriveront, ils seront accueillis. Donc en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on est dans une forme, nous, les assos, en fait, c'est Didier Fassin qui dit ça, qui est un médecin du Comité pour la Santé des Exilés et un professeur du Collège de France. Il me disait la dernière fois que les assos, on était dans une forme d'hyper-obéissance civile et que c'est l'État, en fait, qui délinque et qui est désobéissant parce qu'en fait, nous, on est juste en train de se battre pour que tout ce qui fonde les lois qui ont été posées là-dessus au niveau international et plein de principes de la République française soient respectés. Et à Briançon, les maraudeurs donnent des textes de loi aux policiers pour leur dire « Mais regardez quoi, protéger et servir, normalement, c'est ça votre feuille de route. Voici les lois que vous ne respectez pas, vous êtes délinquants. » Et je trouve ça dingue, en fait, de me dire « C'est vraiment nous qui nous battons pour que la loi soit respectée, tout simplement. »
Et dans le même temps, il y a quand même beaucoup de gens qui sont criminalisés parce qu'ils auront aidé à passer, d'accord ? On a quand même vu encore, il n'y a pas si longtemps, mais ça fait aussi sans doute 10 ans, voire plus, que des gens sont poursuivis parce qu'ils ont soutenu, aidé, conduit des gens dans leur voiture pour faire traverser tel ou tel endroit.
C'est ça. Mais c'est Kenny Arcana qui dit « Vos lois sont immorales, ma délinquance a des principes. » Et moi, je trouve que notre délinquance, quand elle existe, elle a beaucoup de principes.
C'est joli, ça. Ok, alors ensuite, ces 10 dernières années ont été marquées par la maltraitance des personnes exilées à Paris et en Île-de-France. Diverses modalités de gestion de l'enregistrement des personnes ont été expérimentées. Des files d'attente interminables devant des dispositifs sous-dimensionnés, notamment durant l'épisode de la bulle humanitaire à la porte de la chapelle. La dématérialisation du guichet des demandes d'asile, devenu un numéro de téléphone payant en 2017, et qui participe à l'invisibilisation des personnes exilées des espaces publics sans pour autant faciliter leur accès aux dispositifs et à leurs droits. Voilà. Alors là, il y a plein de sujets là, en une seule phrase qui sont dedans, parce que effectivement, donc Porte de la Chapelle, tu en as parlé tout à l'heure, c'était un lieu quand même avec. Enfin, c'était une affaire complètement incroyable, cette bulle. Et puis ces deux sujets de la dématérialisation du guichet des demandes d'asile, c'est-à-dire que ça, mais c'est pas que à Paris, ça, c'est partout.
Oui, oui.
La dématérialisation, celle-ci. C'est, nous, on le voit beaucoup à Antanac, par ailleurs, à côté, là, dans la maison d'à côté de la radio Cause Commune. On voit bien que les démarches sont de plus en plus complexes, compliquées à faire. Je parle même pas de la question des préfectures qui n'ont pas de, qui ont plus de rendez-vous, etc. Mais même simplement faire la démarche ou savoir qu'est-ce qu'il faut faire et par où il faut passer, ça continue à être hyper compliqué. Et c'est, voilà. Donc, ce qui est étonnant, c'est que, ça participe effectivement à l'invisibilisation des personnes, dans le sens où il a été prévu, donc ça, il y avait des trop grandes files d'attente devant les préfectures, devant les bureaux et tout ça. Et donc on a dit, ben non, on va plutôt le faire discrètement. Mais de fait...
De fait, ça fonctionne très mal. Après, alors oui, c'est vrai, hein, il n'y a plus ces files d'attente à certains endroits. Et donc, ce qu'on explique là dans le passage, c'est un peu technique, mais c'est qu'il y a vraiment divers modalités qui sont expérimentées. Les autorités testent un truc, ils ouvrent un bureau quelque part, puis il y a trop de monde devant, donc ça les embête. Après, ils ouvrent une bulle humanitaire, puis pareil, en fait, au bout d'un moment, elle est sous-dimensionnée, puis ils s'en servent pour fliquer les gens qui sont à l'intérieur, donc les gens ont plus confiance. Enfin bref, il y a pas mal de modalités comme ça qui se succèdent avec le même état de fait. Il y a toujours des campements à Paris. On continue d'avoir des campements à Paris qui se font et se défont au même endroit, qui se succèdent de un mobilier anti-SDF, et donc les lieux se déplacent un peu plus loin et reviennent. Et en fait, c'est la police qui devient l'agent social de gérer toute cette misère-là. On envoie les policiers démanteler un campement, on envoie les policiers faire monter des gens dans les bus, on envoie les policiers s'assurer que les gens soient invisibles en journée. Faut quand même se préfigurer, il y a pas mal d'évacuations où les mineurs résistent pas mal aux policiers, leur disent mais juste donnez-nous un endroit où aller, donnez-nous un seul lieu où on peut se poser. Et donc vu que les policiers ne leur apportent jamais cette réponse, ils occupent la gaieté lyrique maintenant et bravo à eux, et leur mobilisation est admirable et belle. Mais en fait, il faut se préfigurer pour ceux qui sont dehors cette impossibilité d'exister dans l'espace public. Je sais pas si les gens ont déjà fait cet exercice, mais qui est un peu angoissant, de se dire ok, je m'imagine dans une ville à l'autre bout du monde, je n'ai aucune ressource, aucun réseau, et en plus les autorités, les gens qui sont garants de qui est dans l'espace public vont me chasser en permanence, et moi physiquement je n'ai le droit d'être nulle part. Et si je me pose quelque part, si je déploie une tente, c'est trop visible. Si je me pose quelque part, au bout de 2 heures, il faut que je bouge encore ailleurs. C'est quand même dingue d'imaginer d'être à ce point chassé en permanence. Enfin, tout ça, c'est une fabrique de l'errance, quoi.
Je propose une petite pause musicale pour faire une respiration, parce que c'est terrible. Ça doit être terrible aussi pour les auditeuristes qui sont en train d'écouter. Gilles, on peut lancer un tout petit peu de, peut-être pas toute là parce qu'elle est grande, on va le mettre à la fin après, mais un petit morceau, à tout à l'heure.
J'attaque les envies de me voir quitter ce pays. J'attaque pour mes frères, la morale et nos vies. J'attaque comme le pensent les lois. J'attaque mensonges et mépris. J'attaque et dans ton tact, une putain d'ironie. J'traque ton discours, j'traque ton air fier. J'traque tous tes hommes quand ils renvoient les charters. Même les plus tranquilles deviennent vénères en temps de guerre. Give me the fire, hey oh, give me the fire, hey oh Lord.
Enfants d'immigrés, tout ce qu'on fait, nos parents nous donnent le droit de ne pas douter de ce que l'on est, de ce qu'on fait là. Les valeurs se perdent, aucun hymne ne les ramènera. Mes couleurs ou drapeaux, car toi ne suffisent pas. On ne choisit pas où on n'est, pas toujours où on va. Frères sans papier donnant leur au moins le choix. On trie même les hommes, certains deviennent des proies. On crée des lois pour ça.
Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est
passion comme une ole. Une fois de plus, la sentence est tombée. Tout ce qu'on veut, c'est se sentir chez soi. Face à l'adversité, si je reste, tu fermes ta porte, mais tu ne viens plus chez moi. Mon identité grandit sans cesse.
Ne vous inquiétez pas, on la remettra tout à l'heure en fin d'émission. Alors toi, tu chantais toutes les paroles, vas-y.
Ah là, ça partait sur le couplet d'Aurélien en plus. On est en France, yeah, je l'aime, c'est ma terre.
Non, voilà, non, non. On le mettra tout à l'heure, promis. Génial. On va le remettre à la Matt. Fin. Donc vous êtes toujours dans l'émission Un coin quelque part. Je suis toujours avec Paul Allozy de Médecins du Monde. Et donc on continue sur cette lettre ouverte qui a été faite à monsieur le président de la République française concernant les 10 années de non-accueil des personnes exilées à Paris et en France. Donc je poursuis la lecture. L'encampement des personnes exilées se traduit par l'existence de nombreux lieux de vie informels et notamment de campements regroupant parfois jusqu'à 4000 personnes à Paris et en petite couronne. Les nombreuses tentatives des autorités de mettre fin à ce phénomène par une politique de zéro point de fixation, oh, c'est affreux ce terme, zéro point de fixation, se sont matérialisées par des scènes de violence répétées lors et suite au démantèlement de ces lieux de vie. À l'instar du nettoyage social organisé à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques, la réponse politique a toujours été plus policière qu'humanitaire. Dévoyant l'usage initial prévu du service public policier et faisant des expulsions et du harcèlement par les forces de l'ordre, l'une des conditions structurelles du quotidien des personnes exilées à Paris. Donc ça, oui, pendant cette période-là, ça a été une lutte assez, assez forte, là, hein, sur les...
Ouais, c'était quelque chose. C'était quelque chose, fameux nettoyage social. On a eu un nombre d'expulsions qui était très important, qui a augmenté de 30 à 40% depuis les années d'après Covid, donc les 3-4 années précédentes. C'est ce qu'on a documenté avec tous les camarades du revers de la médaille. Et surtout, ce qui est les expulsions étaient très évidemment ciblées avec des raisons olympiques. Donc que ce soit là où doit passer la flamme, sur un canal, sur un boulevard, que ce soit des lieux d'épreuves olympiques, tout simplement, ou à proximité du village olympique. Évidemment, tout ça pour nous a commencé et a été très visible au moment de l'expulsion du squat Unibéton. Donc voilà. Ça, c'était le 26 avril 2023. Ouais. 500 personnes qui occupaient une ancienne cimenterie à côté du village olympique.
Ouais, on avait fait une émission ensemble à ce moment.
Voilà, c'est ça.
Avec ça, parce qu'il y avait eu pas mal de manifestations autour de de cet événement-là.
Ouais. Ouais. Et donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que la police devient tout le temps la réponse en fait. Et c'est pas le boulot des policiers de faire ça. J'espère vraiment de tout mon cœur qu'ils s'engagent pas dans la police ou la gendarmerie avec l'espoir de lacérer des tentes aux cutters, avec l'espoir de dégager des SDF et de mettre du gaz lacrymogène sur leur couverture. J'espère, s'il vous plaît, qu'ils s'engagent avec l'envie de faire autre chose, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même dingue de se dire que ça devient l'outil principal pour gérer une population de milliers de personnes chaque année dans la rue. Et surtout, ce qui est important à savoir, c'est que tous les épisodes de violence ne sont pas dus à quelques brebis galeuses. C'est encore une fois, tout ça, c'est vraiment un système qui est pensé de cette façon.
Oui,
c'est très organisé. Quand on parle de la politique de zéro point de fixation, il y avait toute une époque où Didier Lallement, ensuite Gérald Darmanin, mais voilà, que ce soit au niveau de la préfecture ou du ministère, était très content de faire des tweets chaque matin en disant « Ah, cette nuit à Paris, 127 évictions, 3 OQTF distribués, tant de personnes fouillées ou arrêtées. » Et tous les jours, ils faisaient le bilan. Donc on a ces tweets dans nos rapports, que ce soit le collectif d'accès aux droits ou du revers de la médaille, pour montrer que voilà, c'est vraiment pensé, c'est des ordres qui sont donnés, quoi. Donc on est en train de dévier complètement l'usage d'un service public qui, à la base, n'est pas censé servir à ça, quand même.
Pas censé servir à ça. Et en plus, alors, cette notion-là de point de fixation, c'est comme si, effectivement, c'est quelque chose qui vient s'accrocher. Il n'y a pas le droit de s'accrocher là, quoi. C'est très curieux, fixation. C'est pas la question. Ils sont pas en train de se fixer. Ils sont en train d'essayer de survivre quelque part. C'est juste, waouh, improbable. Ces termes sont improbables.
Il faut se dire qu'encore une fois derrière, quand on vous dit tant de personnes évincées, etc. Je me souviens, on avait un groupe de patients iraniens. Il y en avait un qui m'avait dit qu'il avait trouvé à Porte de la Villette, il y a un endroit avec des escaliers condamnés qui est devenu une espèce de poubelle à ciel ouvert. Et il m'a dit, bah en fait, des fois, je dors là parce qu'à part les rats, personne n'y va. Et donc, au moins, la police là-dedans, ils viennent pas me chercher sous les détritus. Enfin, on a quand même des gens qui vivent ça, quoi. Ou le nombre de fois où j'ai eu des patients qui me disent, bah on se met sous un pont la nuit, puis à 4h du matin, on nous dit faut partir dans le dessous du pont. Et donc, c'est soit la gazeuse, soit la pluie. Bon, bah, on choisit la pluie. En fait, enfin, c'est vraiment ce truc en permanence, quoi, de voir. On est déjà dehors à devoir lutter contre le froid. Enfin, aujourd'hui, par exemple, il fait froid. Hein, à mon avis, si vous êtes sorti de chez vous en oubliant votre manteau, vous retournez vite chez vous aller le chercher. Il faut s'imaginer passer des heures dehors sans la possibilité de se réchauffer. Et encore une fois, que les gens qui sont censés vous protéger empirent la situation.
Mais cette décennie a aussi été marquée par plusieurs épisodes de prise en charge d'ampleur pendant la pandémie de la Covid. De la Covid, ah ouais, vous avez dit féminisé. Du Covid-19. Et en mars 2020, lors de l'arrivée des 3000 Afghans qui fuyaient la prise de Kaboul par les talibans en août 2021, ou à l'occasion de l'accueil inconditionnel des Ukrainiens et Ukrainiennes dès le mois de mars 2022. Mars 2022, déjà ?
Oui, c'est ça, hein, wow. Ça a commencé à ce moment-là, ouais. Et okay. Là, on rentre dans la partie de la lettre qui, alors, tout est important, mais qui, en tout cas, moi, tout ce qui me permet de continuer à avancer, c'est toutes les fois où ça fonctionne, toutes les fois où on peut montrer que c'est possible. Ouais. Voilà, quand les talibans ont pris le pouvoir à Kaboul en août 2021, la France a accueilli 3000 Afghans qui ont eu un traitement, alors on va pas appeler ça un traitement de faveur, mais un traitement différencié, c'est-à-dire qu'ils sont pas passés par la rue. Ils sont arrivés là, 3000 d'un coup, et l'État s'est organisé. Il y avait des interprètes à l'arrivée à l'aéroport. J'ai un copain bénévole afghan qui a passé des jours et des nuits à l'aéroport à inviter tout le monde. Et ils ont eu un parcours facilité qui se rapproche de ce qu'on devrait faire normalement. Donc en fait, oui, bah on peut le faire. Et ça, c'était 3000 personnes. Pareil, hein, pendant la pandémie, bah au début, on a crié toutes nos forces pour les obtenir, mais il y a plein de places en hébergement d'urgence qui ont été ouvertes. Alors c'est pas satisfaisant, mais les gens étaient sortis de la rue par milliers. Donc tiens, c'est possible encore. Et puis là, pour les Ukrainiens, j'en parlais tout à l'heure, le Médecin du Monde avait fait un tweet qui avait bien marché, qui nous avait fait rire. C'était quand Jean Castex avait fait son discours en disant c'est bon, on va accueillir 200 000 Ukrainiens, de lui dire tu vois quand tu veux. Et ce qui est un peu le meilleur des plaidoyers dans ce moment-là, voilà, juste une petite réplique un peu drôle, un peu cinglante. Mais en fait, dès qu'on veut le faire, ça marche. Et je crois pas que la France a vu depuis son mode de vie transformé par les Ukrainiens ou je ne sais quelle autre bêtise. En fait, tout se passe très bien, quoi. On est capable de le faire et c'est vraiment notre humanité qu'on sauve en aidant les autres, quoi.
D'ailleurs, ces 200 000 personnes en provenance d'Ukraine sont vraisemblablement peut-être pas tous restées ici.
En plus, les gens, ils viennent, ils vont dans d'autres pays.
Et puis, ils peuvent avoir le droit de faire des projets, ils peuvent avoir le droit de vouloir autre chose après. Et comme tu le disais tout à l'heure, de revenir éventuellement même dans leur pays. C'est-à-dire que ça peut être aussi un moment simplement pour se sauver de quelque chose, d'une situation, et puis après avoir envie d'autre chose.
Mais ouais.
Dans leur vie. Tout à fait. Mais donc, c'est ça. Ça, c'est peu indiqué, parce que justement, ça pourrait permettre sinon de démontrer que oui, comme tu disais, quand tu veux, tu peux. C'est-à-dire que quand les politiques choisissent quelque chose, c'est. Bon, alors on te répondra que oui, mais non, c'est à titre exceptionnel, qu'ailleurs, ça a coûté très cher, que d'ailleurs, on pourrait pas faire ça pour plus de monde. Oui, 3000, ça allait, mais plus, non, enfin, etc. Quoi. Mais bon. Ce choix structurel du non-accueil et donc du renforcement du sans-abrisme dans notre pays et de son traitement partiel et très court-termiste dans une urgence perpétuelle, légitimée par l'emploi du terme de crise, semble être la méthode préfectorale envisagée pour encore de nombreuses années. Ah ouais, toi tu penses qu'il n'y aura pas de changement là avec notre nouveau Premier ministre ?
Alors moi je suis convaincu qu'un jour on va gagner, je vous préviens par contre, je vous préviens, ça va changer. Hein, moi j'ai un objectif, c'est qu'on sorte les gens de la rue à Paris, on est nombreux à l'avoir en tête, un jour je pense qu'on va réussir. C'est peut-être pas là l'actuel Premier ministre qui va se retrousser les manches, mais on va continuer à se battre pour et à y croire bien sûr.
Ni les gens qu'il a mis à l'intérieur, au logement.
Non, là, non. L'intérieur, c'est pour ça aussi qu'on a fait le choix d'écrire au président, hein, c'est qu'au niveau du Premier ministre et de l'intérieur, on savait qu'il n'y avait vraiment aucun écho possible, quoi. Ouais.
En effet, depuis 2015, les préfectures d'Île-de-France ont organisé à minima 405 opérations de mise à l'abri. 405
Ouais. On les compte, hein, chacune, voilà, ouais. On est présent, on documente, on prend des photos et on met ça dans des tableaux, on fait des rapports avec des chercheuses, des sociologues. C'est très important, il faut tout documenter.
Il faut documenter.
Mais on est vraiment le caillou dans la chaussure de la préfecture, on est là partout.
Pourtant, dans une France qui se disait prête à accueillir le monde pour ses JOP et qui a vu lors de la cérémonie d'ouverture Filippo Grandi, le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, recevoir les lauriers olympiques, les campements et la rue restent le seul recours pour les futurs arrivants arrivantes. Ouais, vas-y, raconte ça, Filippo Grandi.
Parlons de culot, quoi. Enfin, alors, déjà, je peux vous raconter une histoire assez drôle sur cette nuit de la cérémonie d'ouverture, parce que donc on avait le collectif du revers de la médaille à ce moment-là, et donc on savait que les autorités suivaient de très près ce qu'on faisait, parce qu'en un an, on a fait une dizaine d'actions, donc, d'irruption dans l'espace public. C'est de l'artivisme, quoi. C'est un peu de soulèvement de la terre, un peu de Greenpeace, un peu d'Act Up, un peu de logiciel des Antifa. Et en fait, on va dans des lieux où on nous attend pas, et on met nos messages, quoi. Donc, on a projeté des messages au laser sur l'Arc de Triomphe, sur le ministère de l'Intérieur, sur la Tour Eiffel. On a fait des photos partout. Enfin, bref. Et le jour de la cérémonie d'ouverture, je me permets de provoquer les autorités avec le compte du revers de la médaille. Je leur fais un tweet où je suis dans ma cuisine. Je prends une boîte de cornichons, une spatule, un maillot de bain, des lunettes de piscine, des livres sur les JO, je fous tout ça par terre et je prends une photo et je tag Darmanin, je tag la préfecture en leur disant le revers de la médaille sera présent ce soir à la cérémonie d'ouverture à ce soir. Dans la minute, c'est vraiment, je vous le raconte comme ça s'est passé, dans la minute, j'ai France Info, l'AFP, un média brésilien qui m'appelle. Paul, qu'est-ce que vous prévoyez? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas plonger dans la Seine, comment tu vas faire, etc. Donc moi, déjà, je me bidonne avec tous mes petits camarades du revers, on est mort de rire. Et on avait une action de prévue, mais pas par le collectif. On avait des musiciens d'un orchestre qui jouait à la cérémonie d'ouverture, qui nous avaient dit, en fait, nous, on est des musiciens d'un orchestre national, on est ravis de faire notre métier. Par contre, on est complètement indignés par ce qui se passe. Donc, faisons une action ensemble. Donc, on leur a filé des logos du revers de la médaille et ils étaient devant la tribune présidentielle. Donc, encore un clin d'œil à ce cher président à qui on écrit aujourd'hui. Ils se sont filmés au cœur du réacteur olympique, là. Ils ont fait passer les logos en se filmant à tous les contrôles de police, en filmant le logo qui passe les contrôles, qui avance dans toutes les zones les plus sécurisées. Et pour finir, jusque devant Emmanuel Macron. Et quand il annonce le début des Jeux, il y a quelqu'un de l'orchestre qui tend le logo du revers et qui filme avec son portable. C'est très mignon, ça fait de mal à personne, mais c'est un petit pied de nez de la société civile qui dit, bah voilà, on est partout. Même en face de toi, mec, on se laisse pas faire. Donc c'est ça l'action qui est prévue. Mais moi, je me régale sur les réseaux à faire croire qu'il y a autre chose. Et après, je vais répondre à une interview dans le bâtiment de l'UNESCO, avec vraiment très proche de la Tour Eiffel. Donc encore une fois, une vue sur la Tour Eiffel. Tiens, on revient là-dessus, c'est drôle. Uh-huh. Et je me prends en vidéo en disant, dernière communication, on sera bien présent ce soir, catacombes, et je ferme tout. Et là, il y a d'autres journalistes qui me rappellent en me disant, mais qu'est-ce que vous faites par les catacombes? Et une autre journaliste me dit, j'ai une source policière qui m'a cuisiné et qui m'a dit, attention, on sait très bien qui fait partie du groupe, on va vous surveiller ce soir et on va fouiller les entrées et les sorties des catacombes. Alors déjà, toutes mes excuses à mes amis cataphiles. J'ai tout de suite fait un démenti. On disait qu'on n'irait pas dans les catacombes parce que le soir de voilà, il y a plein de policiers qui apparemment ont fouillé les catacombes. Mais voilà, petit pied de nez pour ça. Je ne sais plus. Ah oui, pourquoi je te raconte ça? Ouais. C'est que moi, le soir-là, voilà, je suis là-dedans. Mmh. On est un peu dans ce jeu de chat et la souris avec les autorités. Et je regarde pas la cérémonie, évidemment, parce que du coup, moi, je suis en lien avec les musiciens qui jouent sous la pluie, qui skyent, qui sont inquiets aussi parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils sortent de leur devoir de réserve. Et je regarde pas la cérémonie parce qu'en fait, elle se passe sur des lieux où des centaines de personnes ont été expulsées pendant l'année, donc moi j'ai pas le cœur à regarder ça. Et ma grande sœur m'écrit et elle me dit, Paul, t'as vu ce qu'ils viennent de faire là sur les réfugiés? Je dis, quoi? Non. Elle me dit, mais je regarde la cérémonie, ils viennent de donner une récompense à un mec. Je dis, mais attends, comment? Mais parlons de culot, quoi, parlons de culot, parce que ils ont donné donc au mec qui gère le haut commissariat aux réfugiés, le UNHCR, les lauriers olympiques, en disant que voilà, la France et les JO trouvaient que c'était hyper important d'accueillir les réfugiés partout dans le monde et que la France était une grande nation pour ça. Et mais parlons de culot, quoi, sur un lieu même où il y avait des campements de personnes réfugiées qu'ils ont expulsées plusieurs semaines, plusieurs mois avant. C'est complètement antinomique et c'est là qu'on voit très bien que il y a une certaine com qui est faite. Voilà l'image que la France veut donner. Puis après, il y a ce qui se passe dans notre pays avec lequel nous, on n'est évidemment pas du tout d'accord.
C'est ça. De la com, ouais, voilà. La politique sous forme de communication. Il y a urgence, donc, le dernier paragraphe de la lettre. Il y a urgence à mettre un terme à 10 ans de non-respect des droits humains et de nos engagements en droit international. Pour cela, de nombreuses solutions existent. Ouvrir des dispositifs de premier accueil inconditionnel à Paris et dans d'autres villes d'arrivée, calqués sur ceux prévus par les Ukrainiens. Ukrainiennes.
On lâche pas.
Réquisitionner des bâtiments vides, on en a beaucoup parlé dans Un coin quelque part, de ces réquisitions possibles, pour agrandir le parc de logements et d'hébergements au niveau national. Et enfin, mettre des moyens financiers et humains à la hauteur des besoins afin de faciliter l'insertion dans la société des personnes exilées dès leur arrivée, en rendant effectif leur accès au marché du travail, comment ça ? À des cours de français, à un logement digne, et un réel accompagnement social et sanitaire. C'est pas un peu exagéré tout ça ?
Écoute, c'est un anniversaire, donc moi je fais ma liste, quoi, enfin, tu vois.
C'est pas Noël, c'est un anniversaire.
Ah oui, c'est ça.
Ok, d'accord. Réquisition et moyens financiers et humains. Ok, mais alors du coup, on a presque fini cette émission. Je voulais quand même qu'on parle un peu, parce que je trouve ça, je le disais au début de l'émission, puis on en parlait hors antenne tout à l'heure, ravi, voilà, les 124 organisations signataires.
Ouais.
Je trouve, et je crois que tu étais d'accord avec ça aussi, que c'est vraiment bien l'espèce de mixité sociale militante qu'il y a dans ces 124-là. Vas-y, raconte un peu.
Bah, ça fait extrêmement chaud au cœur parce que bon, déjà on a dépassé la centaine d'organisations, c'est pas rien pour obtenir autant de signatures.
C'est ça, le Monde disait plus de 80, ils exagèrent.
Voilà.
Ils sont pas
le Monde n'accepte que les signatures, il faut qu'il y ait une personne derrière et ils veulent des gens un peu connus.
Alors c'est pourquoi ça ?
Mais je sais pas, je comprends pas. Moi j'étais donc on a dû tout reprendre. Mais bref, dans ces orgas, il y a des assos, il y a des ONG, il y a des collectifs, et en fait, il y a des gens qui s'intéressent à l'exil comme c'est vraiment le sujet de cette lettre, mais il y a aussi des assos qui bossent dans la réduction des risques. Voilà, par exemple, bah il y a la Fédération Addiction qui a signé la lettre. Il y a plein d'assos qui bossent dans le travail du sexe et qui militent là-dedans, comme le STRAS, le syndicat des travailleurs travailleuses du sexe, comme Accept-Esté, qui est une asso communautaire trans. Enfin voilà, il y a des grandes fédérations, des orgas nationales, comme des assos très locales. Il y a des syndicats aussi, l'Union syndicale solidaire, l'UNEF, le syndicat étudiant. Enfin voilà, il y en a 124, donc je peux évidemment pas citer tout le monde.
Non, voilà, on va pas citer tout le monde, mais en fait, c'est une grande, grande variété.
C'est ça. Et en fait, ça veut aussi dire que on a l'impression que, eh ben oui, l'extrême droite monte partout et gagne partout, mais en fait, on a des signaux comme ça, quoi, de plein de moments où les gens se retrouvent, plein de moments où on fait corps, et c'est aussi un de nos héritages de ces JO, parce qu'on nous a beaucoup parlé d'héritage avec les Jeux, et c'est tout bête, bah en fait, nous, pendant les Jeux, on s'est mis justement, on est sortis de nos inter-orgas, je parlais au tout début de l'émission de l'inter-orga exilé, avec le collectif Le Revers de la Médaille, c'est la première fois qu'on avait un inter-orga avec des gens qui interviennent auprès de tout type de public, de personnes, de catégories, de ce que vous voulez, de tous les gens qui sont à la rue ou en habitat précaire. Donc tous les gens que vous pouvez identifier comme justement sans-abri, que vous identifiez comme roms ou voyageuses, comme étrangères, travailleuses du sexe, usagères de drogue, en fait, là dans un collectif on avait tout le monde. Et ben maintenant quand on signe quelque chose, j'écris à tous les gens de ce collectif, et ben les gens bien au-delà des JO, on a cet héritage-là de oui, on a milité ensemble, on sait que nos solidarités en fait elles font sens quand elles sont collectives et puissantes. Et donc ouais, ça amène à de belles signatures comme ça, ça fait chaud au cœur.
Même si effectivement chacune de ces structures là et alors d'abord ce qui est bien c'est que ça représente plusieurs personnes derrière, c'est-à-dire que c'est des groupes en général un peu importants, et puis ça veut dire que chacune est capable de faire la part et se dire que là c'est important d'être là et de pas discuter 150 ans pour un texte, hein, comme tu le disais tout à l'heure, texte rapidement écrit ou relativement rapidement écrit en petit comité et pas trop discutaillé sur les mots, etc. Donc ça, c'est, je trouve, une belle évolution, parce que moi j'ai quand même des souvenirs d'affaires dans lesquelles chacun veut mettre son mot, puis chacun veut que ça soit sa formulation, etc. Et là, il n'y a pas ça. Il y a comme, je trouve qu'on a gagné ça aussi dans les réunions là qui ont lieu, dont tu parlais tout à l'heure, qui ont lieu régulièrement, et surtout ce qui s'est passé autour avec les JO, avec une espèce de on sait qu'il est important, quoi, puis on peut lâcher sur des trucs pas importants.
Oui, c'est ça.
Et ça, c'est cool.
En fait, les guéguerres de chapelle, les égos, c'est dans tous les milieux, dans l'associatif aussi, mais on arrive à les mettre de côté. Et puis, on parlait de différents types de réalités en début d'émission. Moi, par exemple, alors j'ai eu un temps sur les réseaux sociaux pendant ce temps des JO parce qu'on les utilisait beaucoup, mais je m'en étais enlevé il y a quelques années. Donc là, en ce moment, j'y suis plus du tout. Et je vois plein de gens autour de moi qui sont sur les réseaux et qui paniquent de dire c'est dingue. On voit des commentaires atroces partout, etc. Bah, moi, ma réalité, c'est celle-ci là. C'est 125, 124 votre organisation. Et une organisation qui signe, comme tu le dis, c'est pas juste quelqu'un qui a fait un mail.
Non.
C'est des gens qui ont formé quelque chose, souvent qui a un statut légal, et c'est des heures et des heures d'engagement. Pour certains, c'est des dizaines d'années d'engagement. Donc quand les gens signent, c'est bien plus fort que les 10 personnes qui pourraient commenter cette émission en ligne en disant qu'on est des sales gauchistes et qu'on ferait bien de prendre tous les migrants chez nous. En fait, c'est beaucoup plus fort, quoi. C'est réel, en fait. C'est de l'engagement, c'est des années de pratique, de discussion, de tout ça. Donc ouais, moi, ça me redonne beaucoup, beaucoup de force pour ce début 2025.
C'est cool. Et alors, juste une petite question quand même, parce que c'est quelque chose dont on parle quand même beaucoup en ce moment. Puis moi, j'en ai parlé à d'autres, dans d'autres émissions sur d'autres sujets. Est-ce que Hello Quit X, ça, vous allez le faire ou comment ça se passe?
Alors,
parce qu'on a beaucoup parlé des tweets là, etc.
C'est
mais
vrai.
Du coup,
mais alors, je sais que, alors, je ne tire pas la com de Médecins du Monde, mais pour l'instant, Médecins du Monde est encore dessus.
Ouais,
et j'ai vu cette semaine placer plein de mails qui sont le gros débat justement en interne à Médecins du Monde où
d'accord.
plein de gens de l'orga veulent quitter X tout de suite.
Okay.
Et d'autres gens disent mais attendez, on y a encore encore de l'impact. Moi, mon avis personnel, parce que je suis pas le directeur com de Médecins du Monde et puis tout ne repose pas dans ses mains d'ailleurs. Hein, je vise personne dans l'orga, mais moi, je pense qu'on doit quitter sous tous ces réseaux. Moi, je suis super heureux sans les réseaux sociaux. Depuis que j'ai quitté les réseaux, je relis plein de livres et puis je suis dehors dans la rue à faire des trucs intéressants. Non, mais voilà, si vous vous posez des questions et que les réseaux vous angoissent, quittez-les. Et je pense que nos organisations doivent quitter ces réseaux.
On est d'accord.
Vraiment.
Okay.
Ouais, ouais.
Bon, bah, c'est cool. Bah, j'espère que voilà, au moins les 124 là vont s'en aller de là. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Sauf si tu as un truc à ajouter, mais comme tu le disais, c'est un bon début. Tu crois qu'il va répondre, monsieur
Bien sûr qu'il
le
va
président
répondre. Mais oui, je
il
pense
va
qu'il
répondre.
Va faire un flash à 20h ce soir sur TF1.
Ouais.
Bah oui, moi
sur
j'en suis convaincu.
Non, mais oui, mais on va pas sur TF1, comment on va faire. Merde, non, autre chose.
Non,
vas-y,
mais toutes les télés, quoi, tu vois, France 2, un truc national, comme
toutes
pour le Covid, il va répondre à cette lettre
ouverte.
Il va
appeler Cause Commune.
Ouais, il va appeler Cause Commune, oui, évidemment. Je me demande s'il n'est pas à la porte du studio, là, d'ailleurs.
Et ça va passer ailleurs que de... Parce que pourquoi Le Monde? Vas-y, dis-moi pourquoi.
Le Monde, parce qu'il y a cette symbolique de le journal Le Monde est déposé tous les matins sur les bureaux des ministres, des présidents, tout ça. Donc, on voulait qu'ils reçoivent notre courrier.
D'accord, ok. Ouais. Et c'est prévu que ça elle circule ailleurs aussi. Donc ça, c'est très bien hein, que ce soit publié à 12h30 aujourd'hui. Attention. Temps
non,
de lecture,
on l'espère. On va quand même en parler à d'autres médias. Et puis, on espère avoir un petit coup de projecteur. On discute avec Guillaume Beurice pour voir s'il y a moyen d'en parler dans leur émission ou ailleurs. Voilà, on va continuer à faire du bruit autour de ça. Oui,
ouais, ouais. Je pense que c'est bien en effet. Et donc, voilà, pour les auditeuristes qui n'auraient pas tout suivi cette lettre, vous la pourrez la trouver donc, du coup, dans Le Monde ou bien nous la demander sur la radio. On vous l'enverra avec grand plaisir. Merci beaucoup, Paul.
Merci, Isabelle.
De tout ça, de ta présence, puis de toute l'énergie que tu continues à mettre dans toutes ces affaires.
10 ans plus tard, on lâche rien.
À très bientôt.
Salut.
Voilà, c'est fini pour Un Coin Quelque Part pour aujourd'hui. Merci à toi, Gilles. Et on lance comme on l'a promis. Hein. Tu la remets au début, hein, quand même.
Ah
ouais,
oui.
Il l'a remise au début. À bientôt.
Chacun son identité, mais pour tous la même nation.
Oh, hear me again.
Chacun sa culture, mais pour tous le même pays. Mais on est sûr que
tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme ils veulent. Une fois de plus, la sentence est tombée. Tout ce qu'on veut, c'est se sentir chez soi. Face à l'adversité, si je reste, tu fermes ta porte, mais t'es le bienvenu chez moi. Sans cesse, boum! J'attaque les envies de voir quitter ce pays. J'attaque pour mes frères, la morale et nos vies. J'attaque comme le font ses lois. J'attaque mensonges et mépris. J'attaque et dans ton tact, une putain d'ironie. J'traque ton discours, j'traque ton air fier. J'traque tous tes hommes quand ils renvoient les charters. Même les plus tranquilles deviennent vénères en temps de guerre. Give me the fire, hey oh! Give me the fire, hey oh!
Ce qu'on fait, nos parents nous donnent le droit de ne pas douter de ce que l'on est, de ce qu'on fait là. Les valeurs se perdent, aucun hymne ne les ramènera. Mes couleurs ou drapeaux, car trois ne suffisent pas. On ne choisit pas où on n'est, pas toujours où on va. Frères sans papier, donnant leur aux mains le choix. On dit même les hommes, certains deviennent des proies. On crée des lois pour ça.
Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme une idole. Une fois de plus, la santé.
aime c'est ma terre. Quand elle respecte ses fils et qu'elle nous considère, on reste droit, fier, nos racines, nos pères. Fruit d'une histoire commune, amour et elles vont de pair. Et ces trois couleurs sur le drapeau ne suffisent plus à colorer ce tableau de ce pays, de ce peuple aussi beau. L'identité ne se résume pas à un mot. C'est qu'on fait nos pères quitter au fur leur terre, changer l'hémisphère, car à tous c'est cette terre. L'adaptation à cette nation s'est faite à la sueur de leur front. Musique à une galère pour trouver des repères, un climat délétère aujourd'hui plus qu'hier. Tant de questions, de confusion, être français n'est pas qu'une décision.
Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui ferme sa gueule. Une fois de plus, la machine est lancée.